Bonsoir à vous des punaises dans le crépi sur Radio Campus 106,6, c'est l'émission Data Cafa, scène universelle nomade, et cette semaine on a des invités, on parle didgeridoo, ils vont se présenter eux-mêmes, il s'agit de Pierre et Alex.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Voilà, alors, une association et un fabricant didgeridoo, je sais pas si c'est un mot exact pour ce genre de choses.
Didgemaker.
Voilà, un anglicisme. Bon bah c'est parfait. Un didgemaker, une association, puis on va donc essayer pendant une heure et demie, comme vous en avez l'habitude, de balayer l'histoire de cet instrument, ou en tout cas la vision de l'histoire de cet instrument qu'on a pu avoir dans nos contrées, et puis les développements les plus actuels qu'on peut entendre dans les scènes contemporaines. On commence tout de suite donc avec un morceau un petit peu représentatif de tout ça. Il s'agit de Alan Dargin et Michael Atherton, j'espère que je prononce bien. On va écouter donc Sunshower Atherton. C'est donc le musicien Michael et Sunshower, je pense que personne n'a besoin de traduction, en plus ça va bien, il fait beau aujourd'hui. A tout à l'heure. Toujours des punaises dans le crépi sur le 106,6, et on vient donc d'écouter Michael Atherton dans Sunshower, un album qui représente un peu tout ce qu'on va écouter pendant cette heure et demie consacrée au didgeridoo. Et maintenant on va pouvoir présenter plus amplement nos deux invités. D'abord Pierre.
Bonjour, donc Pierre de l'association Corroboré. Je vais juste présenter vite fait l'association. Donc on est une asso lilloise, deux joueurs de didge, on est une quarantaine d'adhérents, un peu plus, 45. on donne des cours, on tient des petits stands, on fait des petits concerts, ce genre de choses. Et on se retrouve tous les mardis au café Le Détour, donc c'est dans le quartier de Moulins, à partir de 8h, voilà, on donne des cours et on se regroupe.
Des cours au Détour?
Exactement, et des cours au Détour, tous les mardis.
Tous les mardis. Si vous êtes intéressé, on peut s'inscrire sur place directement, il suffit de se pointer.
Voilà, exactement. Sinon, il y a toutes nos coordonnées sur le site corroboré.fr.
Corroboré,
qui s'écrit bien sûr CO20BOR2E.
Bien sûr, on va le répéter d'ailleurs.
CO20BOR2E.
Voilà.
Voli volo.
Et notre deuxième invité donc, qui va se présenter également.
Eh bien, moi je m'appelle Alex et je suis fabricant de didgeridoo. Ça fait une quinzaine d'années que je joue et que je fabrique des didgeridoo. Et je gère aussi le site alex-didgeridoo.com sur lequel vous pouvez voir mes créations et les acheter si le cœur vous en dit.
Voilà, voilà, et bah ça dira sans doute à beaucoup de monde. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui fasse cette activité-là.
Et ben en France, on est deux, a priori, à fabriquer des didgeridoo de façon professionnelle. Après, il y en a d'autres qui fabriquent des didgeridoo pour leur loisir.
Pour leur propre usage ou pour leur loisir, c'est une culture. Et donc maintenant, on va partir dans une espèce de remontée du temps. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient tout ça et par où on commence en gros?
Alors on va commencer par une star dans le monde du didgeridoo qui est un monsieur qui s'appelle David Blanasi. Et c'était le premier aborigène d'Australie à sortir d'Australie avec son didgeridoo et à faire écouter le didgeridoo au monde. Donc c'est de la musique encore traditionnelle. Et donc voilà, quoi, c'est vraiment une star, vraiment un monument. Tant que didgeridoo.
Voilà, petite précision, musique traditionnelle. Les aborigènes, ils jouent du didgeridoo, donc les aborigènes d'Australie jouent du didgeridoo depuis très très longtemps. On n'est pas capable de le chiffrer, probablement 50 000 ans. C'est juste que l'arrivée du didgeridoo dans la culture occidentale, bah, ça date de David Blanasi, et là c'est justement 1979.
Ouais, c'est ça, 1979, et bah, on voit encore que la France joue un bon gros rôle dans ce genre de structure d'accueil. Là, c'est enregistré en France à la Maison de Culture de Rennes. Une collection animée par Françoise Grund que les amateurs de musique du monde connaissent, notamment pour son travail après dans d'autres boîtes comme Bouddha, etc. Encore un disque documentaire comme il en a fleuri beaucoup à l'époque, ici dans cette émission on en passe souvent. C'est, ça date de quand vraiment l'engouement? Parce que là on est sur des premières choses qui passionnaient peut-être déjà les gens qui connaissaient, mais est-ce qu'il y a une lame de fond qui est venue à un moment ou à un autre?
Ce qui a réellement développé, ce qui a vraiment propagé le didgeridoo au monde, c'est le groupe Jamiroquai, qui a été un des premiers groupes réellement contemporains à utiliser le didgeridoo dans ses chansons et qui a eu un succès planétaire.
Donc les années 90.
Ouais, le milieu des années 90 même, on se souvient tous de ces albums de toute façon, je pense, peut-être on les écoutera tout à l'heure pour bien montrer l'élément didgeridoo dedans. Donc c'est parti, un très joli disque d'origine, The Aborigines, Sound and Dance of Northern Australia, et on va donc l'écouter tout de suite dans un morceau live qui s'appelle La création de la Terre. Alors là, pour le coup, on est dans de la cosmogonie, on est dans de la tradition véritable.
Voilà, c'est encore de la musique traditionnelle. Ouais.
Mais c'est parti. Thank you. écoutez toujours des punaises dans le crépi sur Radio Campus 106,6. On parle cette semaine didgeridoo et on vient d'en écouter quelques-uns des morceaux qui ont, on va dire, fondé l'intérêt des jeunes générations pour cette musique. Ils vont nous en dire plus tout de suite.
Tout à fait. Le dernier morceau qu'on vient d'écouter, c'était David Hudson, hein, qui est une célébrité dans le monde du didgeridoo. Vous pouvez pas aller en Australie sans tomber sur des photos de David Hudson et ses CD un peu partout, quoi. Donc,
voilà, le morceau suivant, ce sera Adam Plack. Donc là, on est toujours dans les joueurs, on va dire, de sang aborigène qui ont une tradition culturelle derrière.
Voilà, natif, hein, même carrément du sang, des gens qui ont grandi avec cette
culture-là. Voilà, exactement. Donc là, on n'est plus du tout dans le traditionnel. Il y a juste eu les deux premiers morceaux de David Blanasi qui étaient traditionnels. On n'est pas dans le traditionnel, mais c'est des gens qui peuvent jouer du traditionnel, qui ne le font pas, mais qui savent le faire.
Ils savent le faire, donc ils sont grandis de là, et puis ils sont allés à la rencontre un peu d'autres musiciens, d'autres choses, et puis ils ont développé leur propre univers.
Exactement, alors pas forcément d'autres musiciens, mais en tout cas, ils ont, on va dire, élargi la musique du didge.
La musique du didgeridoo. Donc c'est un album qui s'appelle Dawn Until Dusk, True Bald Song and Didgeridoo, et on voit sur la pochette plein de jolis didgeridoo. C'est important à signaler. On trouve beaucoup de disques dans ce genre, ou c'est quelque chose qu'il faut fouiner ou aller chercher?
Faut quand même pas mal chercher, hein. En général, faut faire un peu le tour de tous les disquaires, voire commander. Aujourd'hui, la façon la plus simple de se procurer des albums de didgeridoo, c'est sans conteste aller les chercher sur le net, quoi.
Sur le net, hein, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il veut bien le dire.
Néanmoins, si vous connaissez le nom de certains albums, on peut en s'en procurer un grand nombre en les commandant à la FNAC aussi.
En les commandant. Pour tout ce qui est déjà sorti, il n'y a pas de problème d'épuisement de stock ou de réédition qui se font pas.
Souvent, il y a certains albums que vous ne trouvez plus, et il y en a pas mal où il faut attendre 2 mois ou 3 mois avant de les recevoir, mais un jour, tout arrive, quoi.
Un jour, tout arrive, même des fois 10 ans après, hein, pour les fans de disques, c'est souvent le cas. Et ben donc on continue l'écoute, hein, ici avec Adam Plack. Do you want to do? Écoutez toujours des punaises dans le crépi sur Radio Campus 106,6 aujourd'hui. Didgeridoo et tout de suite explication sur ce qu'on vient d'entendre.
On vient juste d'écouter Alan Dargin. Alors Alan Dargin, c'est vraiment un monument du didgeridoo. Il a enseigné à des milliers d'élèves. Il y a plein d'artistes aujourd'hui qui s'inspirent de ce qu'il a fait. Et le prochain morceau, c'est Ankala avec un autre artiste de didgeridoo très réputé qui est Mark Atkins, probablement l'artiste de didgeridoo le plus connu au monde. Et vous pourrez d'ailleurs le voir peut-être dans sa tournée en France dans pas longtemps ou sur les différents festivals de didgeridoo qui auront lieu cet été.
Cet été, c'est souvent le cas aussi, comme dans toutes les musiques, plus gros, c'est l'été.
C'est l'été, durant le mois de juillet, où il y a plusieurs festivals, hein, en France, à Hervaux, un autre festival en Suisse, et il y a comme ça quelques festivals disséminés un peu à droite à gauche en Europe.
D'accord, et est-ce que c'est vraiment des choses que... Parce que peu de gens connaissent, je suppose, ce genre de festival. C'est des trucs qui ont 10 ans, 20 ans, 15 ans
Le Festival de France, par exemple, qui est le Festival d'Hervaux, ça va être la 8e édition, je pense, cette année.
Ouais.
Et c'est un festival qui draine à peu près 4-5 000 personnes.
Ouais, 3-4 000, je pense.
Ah, quand même, donc quelque chose d'initié, mais où il y a un gros regroupement. C'est, non, si on veut faire des rencontres, c'est
ah
la
ouais,
bombe. Quoi.
Si vous voulez entendre du didgeridoo, vous en aurez pour vos sous.
Très bien. Bon, donc Ankala tout de suite avec Mark Atkins et Janawiri Parka qui est censé être son cousin, il me semble.
Exactement,
c'est bien ça.
C'est son cousin.
Et on va écouter City Circle.
Thank you.
Vous écoutez toujours des punaises dans le crépi sur Radio Campus 106,6 cette semaine, donc Didgeridoo, et on vient d'écouter deux morceaux de Mark Atkins, une légende vivante à ce que j'ai bien compris.
Voilà, exactement, un des derniers vivants par ailleurs.
Un des derniers vivants carrément des premiers
de
à avoir porté
époque.
Ce truc-là.
Ouais, alors donc lui c'est encore du sang aborigène, et là on va quitter tout doucement le sang aborigène, on va arriver avec Stephen Kent, qui est anglais ou américain ?
Américain,
Stephen Kent.
Un américain.
Et qui joue aussi depuis maintenant 20-30 ans, là, qui est un des tout premiers à être arrivé sur la scène. Et qui reste indémodable. Il est parfait, Stephen.
Il est parfait. C'est vraiment une inspiration de première pour tous les joueurs de Didgeridoo.
Ouais, il y a beaucoup d'albums de cette époque qui ont assez mal vieilli, où il y a plein de techniques d'aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque, et où effectivement les sons sont relativement pauvres. Stephen Kent, ça n'a pas bougé.
Ça n'a pas bougé d'un poil. Non. C'est là qu'on reconnaît les grands et pas à dire. Donc Stephen Kent, un album qui s'appelle Landing, et on va écouter un extrait qui donc s'appelle Mabo, puis après on aura le droit à un petit live carrément dans les studios de Radio Campus. Mais donc tout de suite, Stephen Kent, tant pis si on ne tient pas la comparaison. Vous écoutez toujours des punaises dans le crépi sur Radio Campus 106,6 et à l'instant c'était deux extraits de l'album de Stephen Kent, Landing, donc une grosse référence pour nos invités. Et ils vont pouvoir nous montrer bientôt de à quoi ça correspond en nous vous faisant le plaisir d'une petite prestation live. Et tout de suite, on va parler donc de notre premier intervenant, Alex, qui va nous expliquer ce qui l'a amené à jouer et puis à travailler aussi dans le didgeridoo.
Ouais, donc moi je viens d'une famille d'artisans qui travaillent le bois. Donc j'ai grandi dans un atelier bois pendant toute mon enfance. Et j'ai toujours été attiré par le travail du bois, mais j'avais pas réellement d'objets qui me passionnaient, que j'avais réellement envie de fabriquer. Et un jour, je suis tombé par hasard sur le didgeridoo, et là, ça a été un peu la révélation. Et du jour au lendemain, je me suis mis à fabriquer mes propres didgeridoo, parce qu'à l'époque, c'était très difficile d'en trouver, et puis ça valait relativement cher.
Donc,
il y a 15 ans de ça, quoi.
Il y a 15 ans de ça.
Donc ça fait 84, si je dis pas de conneries.
Tu dis des conneries, 94.
94, ouais, exactement.
Exactement, parce que là ça faisait plus, c'est une vingtaine. Mais bon, on va pas être tâtion. C'était voilà. Quand même un travail qu'il faut de longues années pour maîtriser.
Il faut de longues années, surtout que j'ai d'abord commencé par la fabrication dite en sandwich. Et à cette époque-là, cette méthode n'existait pas vraiment. Donc j'ai développé ma propre méthode. À savoir, je fabrique mes instruments dans des poutres ou des plateaux débités directement dans des troncs d'arbres. Et je sculpte entièrement deux intérieurs identiques. Je colle les deux intérieurs ensemble et après, j'enlève l'excédent de bois qui se trouve à l'extérieur.
D'accord.
Donc ça a eu un énorme avantage, c'est que ça me permet de choisir les bois que je veux, donner exactement la forme que je veux. Et ça permet d'avoir des instruments tout à fait insolites et aussi d'avoir des instruments plus tournés vers un côté musical, à savoir avec une très bonne jouabilité, qui ont un son assez harmonieux et qui ont un beau look, une belle esthétique, enfin combiner un peu tout ce qu'on peut faire de mieux dans le didgeridoo.
Parce que traditionnellement, en fait, c'est d'une pièce de bois et on peut pas...
Traditionnellement, le didgeridoo, il vient d'Australie, donc c'est un tronc d'eucalyptus où l'intérieur a été rongé par les termites. Et donc on a naturellement un trou dans l'arbre. Donc l'arbre est encore vivant, hein, il est percé et encore vivant. Et tout le travail des aborigènes consiste à explorer le bush en tapant sur les arbres pour écouter comment ils résonnent et en déduire si ça fera un bon didgeridoo ou pas.
Donc c'est plus un truc de cueillette ou de
c'est
découverte.
C'est plus un truc de cueillette et ça requiert quand même une énorme expérience. Pour savoir, rien qu'en tapant du doigt sur un tronc d'arbre, si ça va faire un bon instrument de musique ou pas. Donc je fabrique aussi des instruments selon cette méthode. Donc toutes les quelques années, je fais un voyage en Australie où je vais dans les territoires du Nord, en Australie, couper des troncs avec soit d'autres fabricants de didgeridoo, soit avec une tribu aborigène. Qui me fournissent des permis pour pouvoir aller couper avec eux les troncs qui me sont nécessaires.
Ouais, la coupe est très très réglementée en Australie, on n'a pas le droit d'aller couper ce qu'on veut.
Ce qu'on veut, ouais, donc il faut connaître les gens. Mais...
Surtout que c'est des terres aborigènes, donc c'est des permis de coupe.
Voilà, il faut avoir des permis de coupe, il faut connaître les gens, c'est assez difficile quand même parce que le climat n'est pas facile, c'est un travail difficile. Après, il y a toute une logistique pour exporter et recevoir les troncs ici en Europe. Et après quoi, je les travaille dans mon atelier à la gouge, où globalement, le travail consiste à améliorer le trou original fait par les termites. On souffle dans le didgeridoo, on regarde quelles sont les qualités et les défauts, et puis on retravaille un petit coup et on ressouffle, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait un instrument qui nous convienne.
Alors ça, c'est un travail passionnant. Et est-ce que tu prends le plus de plaisir à faire la méthode que tu as inventée? Je suppose que ça te tient particulièrement à cœur,
voilà,
puisque tu l'as travaillé toi-même.
La méthode que j'ai inventée, ça me permet quand même de réaliser des didgeridoo qui ont jamais été faits dans le monde, quoi. Donc des formes totalement nouvelles, des essences de bois qui n'ont jamais été travaillées pour faire des didgeridoo. Et donc on a vraiment un produit tout à fait insolite. Avec les didgeridoo en eucalyptus, c'est pas tout à fait la même chose, mais le fait de pouvoir travailler à l'intérieur de l'instrument et souffler directement dedans, on apprend, ça permet d'apprendre exactement quelle est la conséquence de donner quelques coups de gouge à tel endroit dans le didgeridoo et à tel autre, etc. Et on a un résultat direct en soufflant directement dans l'instrument. Quoi. Donc c'est deux expériences réellement différentes. Il y en a une qui est plus théorique avec ma propre méthode et la deuxième qui est plus basée sur l'expérience et le ressenti avec la méthode traditionnelle, on va dire.
Et donc au niveau sonorité, parce que là en plus tu veux nous présenter, je suppose, l'instrument sur lequel tu vas jouer, est-ce que tu travailles pour te rapprocher des sonorités ancestrales, on va dire, ou est-ce que tu essayes vraiment d'en créer des nouvelles, notamment?
Alors moi je suis plutôt dans le didge contemporain, où j'essaye de fabriquer des instruments qui ont une bonne jouabilité, avec un son plutôt adapté à nos oreilles d'Européens, puisque pour les aborigènes, c'est un son beaucoup plus rugueux, beaucoup plus terreux. Hein, et ça passe moins bien pour l'enregistrement et les qualités de jeu sont en général plus difficiles à apprécier ou moins accessibles, on dira, dans un premier temps.
Il n'y a pas de notion de musicalité comme on entend sur un instrument aborigène du tout, quoi.
Du tout.
On n'a pas du tout l'oreille pour entendre la musicalité s'il y en a une. C'est des troncs qui sont presque pas travaillés, voire pas du tout, et qui sont joués bruts, voilà quoi. Les instruments que fait Alex, c'est plutôt l'inverse, où l'objectif c'est la musicalité, c'est avoir un instrument de musique.
Voilà, donc là on parle de deux choses, hein, des gens, des musiciens qui vont chercher un instrument pour s'exprimer, ou alors une tradition, et où ils ne s'intéressaient pas vraiment à... C'était déjà beau de faire sortir un son, justement, ils étaient dans une sacralisation du son un peu peut-être.
Voilà, pour les aborigènes c'est pas tellement un instrument de musique, c'est plutôt un moyen, c'est un peu le pinceau quoi.
C'est un peu le pinceau, et puis c'est pour les aborigènes, c'est quand même un instrument cérémoniel.
Voilà.
Donc on le joue pas partout, on le garde surtout pour le jouer lors de cérémonies, pour être en symbiose avec les autres personnes qui participent à la cérémonie, à savoir des danseurs, des chanteurs, etc. quoi.
Et bah c'est parfait, si tu peux nous présenter un peu justement le ditch sur lequel tu vas jouer peut-être.
D'accord, c'est un de mes derniers ditch que j'ai réalisé, qui est réalisé... en bois dur, un bois qui s'appelle le padouk, donc un très beau visuel qui a un beau son. Et ce DJ est dans une note assez élevée puisqu'il est en fa dièse, ce qui est déjà parmi ce qui se fait presque de plus rapide dans le didgeridoo.
Ah ouais, quand même.
Voilà, chaque DJ a une note et en gros on fait une gamme, les plus lents étant vers les do et les plus rapides vers les do dièse. Vers les fa dièse, pardon.
Vers les fa dièse.
Donc là on est sur du fa dièse, on est du rapide.
Voilà.
Donc on va y aller, je vais tout doucement baisser les micros et puis on va écouter ça. Merci Alex, une petite prestation. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu as fait là et à quoi ça renvoie dans la musique du didgeridoo, ce genre de pratique justement?
Et ben là c'est un peu une combinaison de certains styles qu'on peut entendre aujourd'hui. Donc il y a d'abord une introduction avec un jeu en harmonique, hein, donc c'est les notes assez aiguës qu'on entend, assez calmes. Puis après il y a un peu de jeu de diaphragme pour mettre un peu de rythme, hein, et j'ai fini par un peu de jeu de langue pour donner un peu, pour accélérer encore un petit peu plus le rythme.
Et voilà. Donc trois techniques bien différentes et trois modes de jeu.
Modes de jeu qu'on peut jouer de façon séparée ou qu'on peut combiner ensemble. Le tout avec en intercalant la fameuse respiration circulaire. C'est un peu la difficulté première quand on se met au didgeridoo, à savoir continuer à respirer tout en soufflant dans son instrument.
Tout en soufflant dans son instrument. Et d'ailleurs, au passage, l'association Corroboré fait aussi du beatbox et du chant diphtonique. J'ai vu ça.
Alors, on fait pas proprement à proprement parler de beatbox ou de chant diphonique, mais c'est vrai qu'on organise souvent des stages ou des petits workshops de chant diphonique ou de beatbox. Alors, beatbox, c'est une première. On l'a fait une fois cette année. Chant diphonique, c'est un peu plus ancien que ça. Ouais. On en a fait quelques-uns déjà.
Donc comme quoi c'est des pratiques qui se retrouvent un peu dans le monde entier d'ailleurs, ces techniques de respiration de manière un peu surprenante. Et là elles trouvent vraiment un écho singulier avec ces instruments là. Il y a une manière d'articuler le souffle pour que justement il n'y ait pas de parasites par exemple dans les instruments quand on souffle.
Ouais, donc mais ça dépend beaucoup de l'expérience du joueur en général, quoi. Donc suivant comment. Pour avoir un bon son, un son bien plein, sans parasite, il faut savoir jouer de façon puissante, sans être tendu, tout en étant décontracté. Donc c'est un peu, pour faire un parallèle, c'est un peu les bons joueurs de jazz quand ils soufflent dans leur trompette. À savoir, ils soufflent bien fort, ils sont bien gonflés, et en même temps, ils sont relativement relax quand même, quoi.
Ouais, c'est facile, ça doit venir naturellement, découler un peu.
Ça vient naturellement, après un sérieux entraînement quand même.
Il y a l'entraînement, peut-être même quelques petits artifices et modernités justement. Là, on va partir dans une écoute de musique un peu plus contemporaine, notamment en écoutant Philippe Péris Trio, un album qui s'appelle Zephyr. Un petit mot là-dessus.
Alors Philippe Péris, c'est peut-être le dernier qu'on aurait pu mettre dans la catégorie d'avant. C'est un des joueurs qui joue depuis très longtemps, qui vit maintenant, si je ne dis pas de bêtises, en France, à côté de Lyon, qui est originaire de l'Océanie. Et là, il y a un groupe qui s'appelle donc Philippe Péris Trio. Et il joue avec deux Japonais. Donc ça, c'est un peu la version un peu contemporaine de ce qu'il peut faire.
Ouais. Alors on voit qu'en plus, il y a d'autres instruments que le didgeridoo qui sont sur cet album. Visiblement, hein, on parle encore de chant diphtonique et puis aussi de la guimbarde, par exemple. Il y a des correspondances comme ça entre traditions qui se font, ou alors c'est vraiment des projets aux musiciens, j'ai envie de dire.
Alors sur cet album, je crois qu'il n'y a pas trop de chant diphonique ou de guimbarde, mais c'est vrai que c'est des didgeridoo, chant diphonique et guimbarde sont souvent reliés, tout simplement parce que c'est des techniques relativement similaires et on joue à chaque fois sur une seule note et on va juste développer les harmoniques qui sont dans la note. Donc ça, sur nos instruments occidentaux, ça n'existe à peu près pas, voire pas du tout, et ça existe donc justement dans la guimbarde, dans le chant diphonique et dans le didgeridoo.
Très bien, et donc on va écouter maintenant hein, Philippe Péris Trio, l'album qui s'appelle Zephyr et qui est distribué par l'autre distribution dont on vous parle souvent hein, dans cette émission. Ça doit donc être un très bon album. Écoutez toujours des punaises dans le crépi sur Radio Campus 106,6. Et qu'est-ce qu'on vient d'écouter, messieurs ?
On vient d'écouter Gauthier, jeune joueur français plein de talent, qui a enregistré son album l'année dernière suite à un partenariat avec moi-même. Donc il a sorti son album qui s'appelle Terre Inconnue. Et c'est un album multi-instrumentaliste avec pas mal de choses, des percus, du violon, de la basse. C'est assez hétéroclite, c'est vraiment bien, quoi.
Voilà, et vraiment, il joue avec plein d'instruments, là. C'est un groupe ou alors c'est vraiment quelqu'un qui rencontre d'autres musiciens ?
Non, c'est quelqu'un qui rencontre d'autres musiciens et qui fait des petits partenariats avec d'autres musiciens, comme ça. Et c'est vraiment pas mal, quoi. Et on va introduire un autre joueur français juste après, d'ailleurs, qui est Zalem, le deuxième joueur français montant en ce moment. Et lui aussi, c'est un peu de la même veine. Très bonne qualité de son, très bonne technique. Que du bon.
Voilà. Zalem, au passage, il joue dans un groupe qui s'appelle JMPZ. Et c'est pas ça qu'on va vous présenter. Un autre groupe à lui qui s'appelle Wadom, donc avec deux Hang. Deux joueurs en Hang.
Exactement. D'accord. Et après, on vous donnera peut-être des dates pour ceux qui veulent aller voir ces concerts-là. Mais pour l'instant. On ne sait pas si on a beaucoup, mais il y en a quelques-unes quand même. Il y a des workshops ou des choses comme ça. On verra ça. Mais pour l'instant, on écoute Zalem, et donc dans le groupe Wadom. écoutez toujours des punaises dans le crépi sur Radio Campus, et bah c'est bientôt fini, il nous reste juste le temps de vous rappeler quelques informations, un petit live, un petit morceau, et puis c'est tout. On se dépêche tout de suite et on présente notre prochain instrumentiste, Julien, qui ne s'était pas encore présenté d'ailleurs.
Donc voilà, donc Julien, je suis aussi un joueur du didgeridoo depuis 4 ans, un peu plus de 4 ans, membre de l'association Groboré depuis 3 ans et demi maintenant, peu de choses près. À côté, je suis étudiant, je bosse en tant que surveillant, et voilà, je vais tout de suite jouer mon morceau.
Et bah parfait, allons-y. Merci Julien pour ce petit morceau. Pareil, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu as fait là sans trop t'attarder?
Vas-y. En fait, c'est un rythme, c'est un vieux rythme que j'ai travaillé il y a un an ou deux et que j'essaye de réactualiser avec différentes techniques, notamment issues d'un workshop d'Andrea Ferroni. Donc le staccato, c'est le son du début sans vibration. Voilà. Et ensuite, après, c'est du jeu de. Je vais pas redire ce qu'a dit Alex, mais du jeu de langue, de gorge. Ça peut être assez long si je détaille tout et assez confus, donc...
D'accord, très bien. Bon, en tout cas,
mais
c'était
en tout cas, j'invite les gens intéressés à venir à l'association pour en découvrir plus.
Exactement, bah on va reparler tout de suite, puisqu'on va vous annoncer directement que la semaine prochaine, déjà dans cette émission, on aura un beau petit live également avec Dubravko Lapen, ça se dit comme ça ?
Lapen, oui, c'est ça, ouais.
Un croate qui, en plus, vient vous voir à la MJC Saint-André,
voilà,
juste
exactement.
Après.
Voilà, donc Dubravko va faire le voyage depuis Zagreb juste pour nous voir. Donc il va donner pour les amateurs des petits workshops. Et le samedi soir, surtout un gros concert donc à la MJC de Saint-André. Donc samedi prochain, le 11 avril, si je dis pas de bêtises.
11 avril, c'est ça, 20h30 à la MJC de Saint-André.
Voilà, exactement. Les places, c'est à 5 euros, 3 euros en tarif réduit.
Et les réservations, 03 20 51 66 67, 03 20. 51 66 67 et puis je suppose on peut aussi réserver en passant par vous au site internet ou au niveau
voilà,
de téléphone.
Voilà, faut pas hésiter à envoyer un mail, un téléphone, voilà. Il y a la réservation de la MJC et sinon tout ce que vous pourrez trouver comme information sur le site sera bonne.
Donc voilà, le site c'est corroboré. O2R.fr avec 2R et 2E. On va relépler.
O2R, O-B-O-R-2-E.
Très bien, donc c'est l'association qu'on recevait aujourd'hui. On recevait aussi Alex DJ Maker.
AlexDJRedou.com.
Voilà, c'est ça.
Alex-DJRedou.com.
Sans oublier le tiret.
Et DJRedou, on l'a pas épelé. D-I-D-G-E-R-I-D-2-O.
Mais voilà, c'est vrai que c'est une aussi. Question qui peut revenir. Il n'y a pas de problème. Donc la semaine prochaine, on continue en DJRedou, parce qu'en plus, là, on n'a pas eu le temps tout à fait de faire.
Ouais, il manque encore beaucoup de gens.
Un vrai panorama. Bon, on aura le temps la semaine prochaine d'évoquer ça et puis de voir un peu comment Double F Colapen se place là-dedans.
Voilà, on va juste finir donc sur un petit morceau de lui qui est un des grands joueurs d'aujourd'hui, montant on va dire, et qui à mon avis on va entendre que lui dans quelques années avec un style très très contemporain.
Et voilà, un morceau qui s'appelle Mandala. Juste après cette émission, vous retrouvez La Voix Sans Maître, hein, le groupe des libertaires anarchistes environ de l'île des environs et du monde entier. Et puis quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, et puis vous aussi, donc du coup, à la semaine prochaine.
Eh ben merci Manu, à la semaine prochaine.
D'ici là, amusez-vous bien. Thank you.
Thank you.